La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Dans une minute, il est 7h15. Pour l'heure, les voix de l'économie. Votre invité, François, c'est le fondateur de l'Institut des Finances Publiques.
Bonjour François Eckhall. Fondateur, effectivement, de Fipeco, ancien magistrat de la Cour des comptes, grand spécialiste des finances publiques. On a presque eu un soulagement hier matin en voyant 5,5% de déficit et non pas 5,6. Pourtant, vous diriez quoi? C'est quoi le bon mot? C'est abyssal?
Abyssal, c'est peut-être un peu exagéré. On a eu pire dans le passé, même.
Mais bon. On peut encore faire pire.
On peut faire pire. Ah. Mais, c'est un mauvais résultat. Oui, bien sûr.
Comment est-ce qu'on explique réellement ce gouffre alors que 2023 n'était pas une année de crise, ni crise économique, ni crise du type sanitaire avec du quoi qu'il en coûte géant, qui est forcément coûteux pour les finances publiques?
On a un problème de recettes en 2023. On a une croissance des recettes fiscales qui est très faible, beaucoup plus faible que la croissance sens de l'activité économique, du produit intérieur brut en valeur, alors que normalement, en moyenne, sur plusieurs années, les recettes fiscales, la législation a changé. En corrigeant des mesures législatives nouvelles, évoluent à peu près comme le PIB. Donc, c'est pas normal. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'année précédente, en 2022, ça avait été exactement l'inverse. Eh oui. On avait eu des recettes fiscales qui avaient été très très dynamiques. Si vous prenez un impôt comme l'impôt sur les sociétés, en fait, il est très volatile. En 2022, l'impôt sur les sociétés, je crois, a dû augmenter de 20 ou 25%. C'était énorme. En 2023, il chute, je crois que c'est de l'ordre de 12%. Il y a plusieurs impôts comme ça qui ont eu, les mêmes évolutions.
L'impôt sur les sociétés, c'est les bénéfices d'entreprise.
Oui, mais c'est très fluctuant. Le bénéfice, d'abord, c'est fluctuant. Et ensuite, la mécanique du jeu des acomptes et du solde fait qu'on a toujours, en fait, très souvent ce genre de phénomène.
Ça veut dire que quand le gouvernement nous dit, ils disent même pas qu'ils se sont trompés dans les prévisions, alors que c'est le cas, de fait.
Oui, en plus, il y a une erreur de prévision,
mais donc, on peut comprendre cette erreur de prévision?
Ils avaient anticipé.
Il y a une part d'incertitude, qui nous tombe dessus.
Toutes les prévisions sont fausses. Sinon, la prévision est toujours incertaine. Donc, ils avaient anticipé qu'il y aurait ce qu'on appelle une élasticité des recettes au PIB qui serait inférieure à 1 en 2023, mais pas autant. Ils n'avaient pas anticipé que ça serait aussi fort. Mais ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que la croissance des recettes fiscales et sociales, d'ailleurs aussi en 2022, a été tellement importante qu'on a battu un record en termes de taux de prélèvement obligatoire. Mmh. C'est quand même assez bizarre, après avoir fait 50 milliards de baisses d'impôts au cours des 5 à 6 années précédentes. En fait, pour moi...
C'est-à-dire que tous les taux avaient baissé, mais le taux de prélèvement obligatoire, lui, a augmenté.
Parce que les impôts... Et aussi parce que, par exemple, tous les impôts sur l'immobilier, par exemple, du fait de la hausse des prix de l'immobilier, les droits de mutation à titre onéreux, ce qu'on appelle abusivement les frais de notaire, avaient fortement augmenté en 2021-2022. Là, ils ont chuté de 20% en 2023. Donc, quelque part, en fait, pour moi, c'est un retour à la normale. Ce taux de prélèvement obligatoire record de 2022, c'était une anomalie. Et là, en fait, on revient à une situation normale d'avoir un taux de prélèvement obligatoire plus bas après avoir beaucoup baissé les impôts
donc,
quand même.
Donc, il n'y a pas de malhonnêteté, de manip, comme certains le laissent un peu entendre. Il y a une petite musique un peu quasiment complotiste dans le débat public de « on nous cache des choses ». Voilà. Est-ce que ce gouvernement ou est-ce que la Direction Générale des Finances Publiques a fauté en quelque sorte?
Alors il y a deux choses. Il faut vraiment distinguer deux choses. Les comptes et les prévisions.
Oui.
Les comptes, ils sont exacts. Là, ce que l'INSEE vient de nous présenter, c'est vérifié par Eurostat. Les comptes, ils vont peut-être être corrigés parce que c'est pareil, des comptes, il y a des informations nouvelles qui vont arriver l'année prochaine. L'INSEE corrigera sans doute à la marge en général. Les comptes sont très bien faits. Les prévisions, c'est toujours faux. C'est toujours incertain. Donc oui, quand on fait des prévisions de finances publiques en novembre à l'automne pour l'année en cours, on se trompe encore parce qu'il y a des incertitudes. Par exemple, le dernier acompte d'impôt sur les sociétés, justement, il est très difficile à prévoir. On ne sait pas l'investissement des collectivités locales. Bien souvent, on ne le connaît qu'en janvier ou février. Donc, on fait une erreur qui, en général, est de l'ordre de 0,3 points de PIB, une dizaine de milliards. Là, ça a été 0,6 points de PIB, beaucoup plus. Après, ce que j'ai compris en écoutant le rapporteur général de la commission des finances du Sénat qui est allé voir à Bercy, c'est que la direction du Trésor savait quand même en novembre-décembre que ça serait pas 4,9 mais plutôt 5,1 ou 5,2. Donc là, on est dans l'erreur technique. Et après, donc il y a eu une erreur technique de 0,3 points de PIB, mais ensuite il y a eu de la procrastination de la part du gouvernement. C'est sûr que on a caché, mais il fallait voir aussi qu'on était en plein débat budgétaire et que s'il avait fallu fallu réviser les recettes fiscales pour 2023, il aurait fallu les réviser pour 2024, recommencer la discussion du budget.
Repartir sur une série de 49.3
série de 49.3.
Bon. Pour l'avenir, puisqu'on se tourne un petit peu sur la suite, Bruno Le Maire affirme que sa détermination est intacte à faire revenir le déficit à 3% en 2027. Quand on part de 5,5 en 2023, est-ce que c'est de la science-fiction ?
Un peu, oui. Non, mais on n'y arrivera pas. Et puis, c'est pas la peine. Je dirais que, économiquement, et même du point de vue des règles budgétaires européennes, le plus important aujourd'hui...
À quoi ça sert alors de dire ça, finalement ? C'est de la posture pure, à vous entendre.
Oui, je le crains. Non, le plus important aujourd'hui, c'est de tenir les engagements de dépenses.
Voilà. Oui, c'est ce que vous
on a un calendrier, on a des objectifs d'évolution des dépenses, c'est ça qui compte. Essayer de tenir coûte que coûte un objectif de déficit, on ne nous le demande pas à Bruxelles. Et économiquement, ça peut conduire à prendre des mesures très violemment contracycliques, parce que si vous êtes en pleine crise, il est normal que le déficit il augmente. Bon, on n'est pas encore en pleine crise, mais il ne faut pas s'accrocher coûte que coûte un objectif de déficit. Donc oui, il y a un peu de posture, je pense.
Tout le monde se repaît de la phrase de Gabriel Attal hier, nous allons poursuivre sur cette voie de la rigueur. Le mot rigueur est très connoté dans le vocabulaire politique français, sauf que rigueur, ça veut dire sérieux.
Oui.
Ce qui est déjà pas vraiment le cas, mais ça ne veut pas dire austérité.
Alors après, la différence entre rigueur, austérité...
Non mais rigueur, ça veut dire qu'on tient juste les engagements, on est sérieux, etc. Alors qu'austérité, ça veut dire vous allez souffrir, quoi.
Oui. Je suis pas capable de mettre une frontière entre la rigueur et l'austérité.
Mais est-ce que déjà on tient cette rigueur, comme le dit Gabriel Attal, on poursuit. Donc ça veut dire qu'on y est dans la rigueur.
Si on regarde l'évolution des dépenses, on a eu un problème de recettes en 2023. Alors je regarde un peu, je vais pas terminer l'évolution des dépenses publiques. C'est relativement rigoureux en fait. Hein. On a fait un peu plus que justement ce à quoi on s'était engagé à faire dans la loi de programmation. Il y a peut-être 4 ou 5 milliards de dépenses publiques en trop par rapport à ces engagements, mais c'est pas beaucoup. Voilà. Donc c'est pas on aurait pu faire mieux. C'est sûr, mais bon.
Si on regarde rapidement les pistes qui sont sur la table, les dépenses des collectivités, le modèle social, une TVA sociale aussi, qu'est-ce qui peut être fait là dans les heures, jours qui viennent ?
La TVA sociale, c'est pas ça qui permet de faire des économies ou de gagner des recettes, puisque l'idée c'est à produit constant de remplacer des cotisations patronales par de la TVA.
Donc on peut en espérer
des effets à long terme sur la croissance, sur la compétitivité, etc. Mais ce sont des effets de moyen à long terme, c'est pas immédiat. Les collectivités locales, oui, bien sûr, il y a un sujet. Il y a l'emploi dans les collectivités locales a très très fortement augmenté au cours de ces 20 dernières années. Il y a des inefficacités, comme dirait la Cour des comptes, partout dans les collectivités locales. Le problème, c'est que l'État n'a pas beaucoup d'instruments à sa disposition. Les collectivités locales, elles sont autonomes, elles gèrent leurs dépenses comme elles. Donc, la seule chose que peut faire l'État, ce que Hollande avait fait il y a quelques années, c'est supprimer des dotations de l'État aux collectivités locales. Il l'avait fait et ça a marché. C'est-à-dire qu'elles ont été obligées dans un premier temps de... C'est de supprimer quelques investissements, mais après, elles ont fait des efforts en matière de dépenses de fonctionnement qui ont été très importants. Donc ça marche assez bien.
On verra ce que dit le gouvernement, on verra aussi ce soir ce qu'annonce Gabriel Attal sur l'assurance chômage. Donc autre sujet où là aussi on lui reproche de vouloir faire purement des économies. Merci beaucoup François Eckhall, fondateur donc de Fipeco, avec nous ce matin en direct dans les Voies de l'économie.
Merci à tous les deux et à demain François Geffrier à 6h pour la matinale de l'économie. Vous retrouvez toutes les chroniques, toutes les interviews de François sur l'application radioclassique.fr. Prochain point sur l'économie avec le décryptage de David Barou qui nous parlera des bonnes affaires de Michel-Édouard Leclerc. Dans 3 minutes, les coulisses de la politique. Bruno Le Maire tient le cap de la stabilité fiscale. La majorité va-t-elle le suivre ? Réponse dans un instant de David Doucan, Radio Classique.